Boomerang sans attache, sans étiquette, en toute liberté, avec Victoria Abril ce matin. C'est parti. Tiens, on m'a récemment raconté une histoire qui parle de liberté. C'est un conte soufi qui s'appelle Le cocon et le papillon. Je vous le raconte à mon tour, c'est très court. Un jour, une ouverture apparaît dans un cocon, un homme s'assoit et regarde le papillon qui est en train de naître, se battre pendant des heures pour crever son abri et forcer le petit trou à s'agrandir. Mais bientôt, il semble à l'homme que l'insecte ne progresse plus. Il est allé aussi loin qu'il a pu, mais il bouge plus. Alors l'homme prend une paire de ciseaux et découpe délicatement le cocon pour aider le papillon à sortir. Celui-ci émerge facilement, mais il a un corps chétif et ses ailes froissées sont atrophiées. C'est pas grave, il va se développer, se dit l'homme, et il continue à regarder le papillon en espérant qu'il déploie ses ailes pour voler, mais ça n'arrive jamais. Le papillon passe le reste de sa vie à ramper sur son petit corps, incapable d'utiliser ses ailes rabougries. Ce que l'homme, dans sa bonté précipitée, n'a pas compris, c'est que le cocon trop serré est une ruse de la nature pour forcer le papillon à le percer et à entraîner ses ailes. À cette condition seulement, il peut s'envoler.
Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue. Dans Boomerang, mon invité d'aujourd'hui incarne une certaine idée de la liberté. Elle est comédienne et partage son temps et son travail entre l'Espagne et la France depuis bientôt 40 ans. Ses rôles chez Almodovar, dans Talon Aiguille, Kika, Attache-moi notamment, fait d'elle une icône du cinéma mondial. Elle est actuellement sur les planches du Théâtre de la Renaissance dans Drôle de genre, une comédie mise en scène par Jérémy Lippmann, où elle joue une femme qui a un secret.
Ouais.
Bonjour.
Inavouable.
Bonjour Victoria Abril.
Mon Dieu.
Merci beaucoup d'être
Merci
avec nous
toi.
Ce matin. Alors avant toute chose, qu'est-ce qui vous rend libre, vous, si libre?
Qu'est-ce qui me rend libre? Eh bien peut-être le fait d'avoir grandi jusqu'à 14 ans dans une dictature où tout était interdit. Eh bien justement, c'est en prison, on est libre. Tu sais, et quand je te dis on est libre, la pensée, la liberté des pensées, que c'est les seules libertés qui nous restent.
Oui, parce que vous aviez 16 ans à la mort du général Franco. La liberté avant ça, ça voulait dire quoi?
Et ça voulait rien dire, parce qu'on l'avait pas. On l'avait pas, la liberté.
Ça se manifestait comment?
Ça se manifestait. Par exemple, moi, j'étais une des trois enfants d'une mère moderne, célibataire, pas mariée, dans une dictature catholique. Tu peux imaginer qu'on n'avait pas le droit d'exister, on n'avait pas des permis de vivre. Donc, j'ai pas pu vivre avec ma famille, avec ma mère. J'étais dans des internats.
Quelles images, tout de suite, vous reviennent quand vous pensez à cette enfance? Quelles sensations, Victoria Abril?
C'est une vie où tu n'as pas une structure familiale, c'est-à-dire tu es entouré des pingouins, des nonnes, tu sais, des pingouins qui n'avaient pas des doigts, ils n'avaient que deux, mais c'était pour te pincer les oreilles, et des petites filles. Un monde où les hommes n'existaient pas, les femmes n'existaient pas, les ciels étaient carrés, il n'y avait pas d'horizon.
Alors cette éducation?
Et non, il n'y avait pas d'éducation, on était là pour faire le ménage.
Mais tous ces principes, cette culpabilisation aussi, on l'entend, qu'est-ce que vous en avez fait vous? Vous avez tout envoyé promener?
Tu sais, moi je me suis sauvée parce que j'avais les syndromes des Oliver Twist. Je disais, je suis là. Mais ma mère va venir me chercher. Je n'appartiens pas ici. Tu vois, j'étais là, les temps que ça s'arrête, les temps que ça se passe, les temps qu'il crève, celui-là, et je sortirai de là.
Vous vous souvenez du jour où Franco est mort, du jour où vous l'avez appris, de l'endroit où vous étiez, de ce que vous avez fait?
J'étais en train de danser. J'étais en train d'aller à la conservatorio. Mais je me souviens très bien de la cuite de ma sœur qui a un an et demi plus que moi. Oh là là, quelle cuite! Alors là. Et moi, tu sais, j'allais à l'école. Non, j'allais à le conservatoire de 9h du matin à 1h et puis à l'école de 3h à 10h du soir. Sous la menace que si j'avais mauvaise note, on arrêtait la danse. Donc, imaginez. Au moins, j'ai donné les minimums syndicales. Hein.
Ce qui est intéressant, c'est que cette liberté après la mort de Franco, elle coïncide un peu avec le moment où vous allez commencer à faire du cinéma, Victoria Abril.
Je commençais à faire le cinéma à 14 ans. Ouais. Et donc, je devais commencer à travailler en septembre comme secrétaire, en fait. J'avais fait Tachimécanographia, Et voilà, et j'allais apprendre. Mais moi, ce que je voulais, c'était être danseuse. Et ils m'ont proposé un film. Moi, je voulais pas être actrice. Moi, ce que je voulais, c'était danseuse classique, ballerine. Mais le ballet, c'était du genre impossible. Il n'y avait pas de travail, ça coûtait cher, etc. Donc, il fallait aider à la maison avec un travail.
Parmi les premiers films qui ont fait de vous l'actrice que l'on connaît, il y en a un qui s'appelle « Je veux être femme », Cambio de sexo, de Vicente Aranda. Ce rôle de jeune garçon qui souhaite changer de corps, qu'est-ce qu'il a changé pour vous ?
Ah ben, je suis comédienne grâce à cette film, grâce à ces metteurs en scène avec lesquels j'ai fait des 14 ans à 44 ans, on a fait 14 films ensemble. C'est mon maître, c'est mon phare, c'est celui qui m'a tout appris. Ça a été mon père, mon metteur en scène. Almodovar est venu 15 ans plus tard. Hein. C'est lui qui m'a formé.
Ça veut dire que vous pensez encore à tous les films que vous avez tournés avec lui. Dans quelle mesure ce rôle, par exemple, dans Je veux être une femme, qui était un rôle dramatique.
C'est celui qui m'a décidé d'oublier la danse et de faire du cinéma. C'était l'histoire d'un garçon qui voulait être une fille. Moi qui étais une fille qui voulait être un garçon. Enfin, pas un garçon, je voulais avoir les droits des garçons. Donc, quand j'ai fait ces films, je me suis rendu compte de la dimension thérapeutique de ce métier, non seulement pour ceux qu'on le fait, qu'on les joue, mais même pour ceux qui les voient, qui l'entendent, qui vont au cinéma. Je me suis rendu compte que raconter des histoires, mais ça allait me sauver la vie.
Et quelles histoires ? Moi, ce qui me frappe quand même, Victoria Abril, c'est de voir à quel point l'Espagne, à la fin des années 70, est en avance sur des sujets de société comme celui de la transidentité, notamment, et aussi sur toutes les questions de mœurs. Comment vous expliquez, justement, ce vent de liberté ?
Après 40 ans des ceintures serrées, je peux te jurer que quand ça s'arrête, voilà, c'est ce qu'on a eu 10, 15 ans de movida. La movida, c'était quoi ? C'était la liberté, pouvoir, liberté. Et puis, c'était pas juste quelques intellectuels. Non, la movida était en la gente, dans les gens, dans tout un chacun. Alors, voilà.
Vous l'avez gardé, cette énergie de la movida, en vous, Victoria Abril ?
En tout cas, ils font part de mes ADN.
L'ADN ?
De l'ADN. C'est de ça que je suis faite.
N'empêche, quand vous êtes arrivée en France dans les années 80, vous avez dû le trouver un petit peu coincé, le cinéma français, non ?
C'est quand même la Filmoteca Francesa qui m'a menée pour la première fois à Paris, quand j'ai fait un film qui s'appelait Mater Amantissima, que c'était l'histoire d'une mère avec un petit enfant autiste, et c'était un film très très courageux, et donc c'est là. Le film avait été allé à Cannes. Pero à Paris, la première fois que je suis venue à Paris, c'était la Filmoteca Francesa pour parler de ce film. Donc, quand même. Et puis, quand je suis arrivée en 82, on le verra ça plus tard, tu vois, quand même, c'était l'abolition de la peine de mort.
Ouais.
Nous, on avait eu peine de mort pendant 40 ans, donc, tu vois, c'est... Donc, non, la France, c'était le pays des droits de l'homme, la France, c'était les cimentières du cinéma, pas des éléphants, du cinéma. Tu voulais voir un film, moi, Buñuel, tous les films qui ont été interdits en Espagne pendant tellement de temps, tous ces films, je les ai découverts ouvert à Paris, dans les quartiers latins, avec des copies incroyables, complètement... Non mais attends, j'ai passé de voir un cinéma noir et blanc avec des copies complètement retouchées, magnifiques.
Mais dans quelle mesure, diriez-vous, après tout ce que vous avez vécu en Espagne et puis à votre arrivée en France, que le cinéma et le théâtre ont le pouvoir de faire évoluer les mentalités ?
Claro.
Ah oui.
Claro que si, claro que si. Écoute, moi quand j'ai fait, il y a 40 ans, changement de sexe, les homosexuels n'avaient même pas les droits d'exister, et encore moins les transsexuels, tout ça c'était comme l'avortement. Si tu voulais avorter, il fallait aller à Londres, ou alors dans des conditions pas possibles, dans la cuisine, où beaucoup, beaucoup de gens y perdaient la vie. Donc les opérations, ça se faisait carrément, des changements de sexe, ça se faisait carrément pas en Espagne. Tu allais à Casablanca. Mais tu vois, dans mon histoire, ma première histoire des transsexuels, c'était l'histoire de ces petits garçons qui passent des garçons à Barcelone, travestis, jusqu'à qu'à la fin, ils finissent aller à Casablanca s'opérer et ils mouraient. Et là, pour moi, la drôle des genres, c'est une revanche. Parce que là, maintenant, elle n'a pas 14 ans, elle en a 60, elle aura vécu une vie. heureuse d'être soi. Elle aura été mariée, elle aura eu des enfants, pas naturels, mais on s'en fout, elle aura été mère. Et donc, tu vois, la revancha, c'est ça, d'avoir pu arriver jusqu'à cet âge et avoir pu avoir une vie épanouie. Donc, c'est effectivement, pas que le théâtre ou le cinéma, et la culture en général, les livres, la littérature, tout ça, ça nous aide à vivre.
Ça nous permet, à vous entendre, d'ouvrir les yeux. J'ai pas vous demandé d'ouvrir les yeux ce matin, parce qu'on est à la radio.
Oui.
Mais plutôt d'ouvrir l'oreille.
D'accord.
Pour se replonger avec les auditeurs dans plus de 40 ans d'images en version originale. Victoria Abril, c'est ça.
Bueno, voy a poner un poquito de música.
Resistiré para seguir viviendo. Me volveré.
Sal de ahí, te estaba esperando. Tú solo me ofreces muerte. Y la muerte rara vez da la felicidad.
Esta tarde se dieron sepultura a los restos mortales de don Manuel Sancho Bermejo, que murió asesinado hace 3 días. Fui yo. Yo le maté.
Buenas noches, señoras y señores, con ustedes, Andrea.
Kika, tengo que confesarte algo.
Sí, dime.
Cara cortada, ofreciéndoles en exclusiva lo peor.
S'il te plaît, Loli, est-ce que tu pourrais demander à ton mari qu'il ait la gentillesse de passer un slip? Merci.
S'il te plaît, non, non, vas-y. Et toi, au moindre petit problème, on fout le camp. Moi, je partage pas. Alors, ou tu choisis, ou je me casse.
Mais cassez-vous
d'abord, c'est trop bien. Ah, mais t'as,
je ne veux pas choisir. Je ne peux pas.
Mais enfin, Loli, tu te rends compte de ce que tu me demandes?
Je ne suis exactement une femme. Je ne tengo mentalidad masculina. Quiero ser una mujer. Me siento una mujer.
¿O quieren ustedes ver mi cosita? ¡Mi cosita no!
Victoria Abril, le cinéma, quelle place est-ce qu'il avait dans votre vie d'enfant, dans votre vie d'adolescente ?
Dans ma vie d'adolescente, aucune.
Il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas. Les cinémas, tu sais, la télé, on n'avait pas. Dans les écoles, enfin, dans les internats, j'ai pas vu. Quand j'ai quitté les internats et j'ai commencé à vivre avec ma mère, moi, j'ai expliqué mes journées.
Mais c'est passionnant. Par quelles images est-ce que vous avez été formé alors ? Quelles étaient les images de votre enfance et de votre adolescence ?
À part Oliver Twist, je me rappelle pas des films. Moi, les cinémas, je les connus après, bien après, en 82, quand je suis arrivée en France et j'ai commencé à aller au cinéma. Avant, j'allais pas au cinéma. Moi, j'ai fait des films et j'écoutais, tu sais, j'ai regardé avec des yeux comme ça, tout, la technique, tout, j'ai regardé tout et j'apprenais, et en plus, j'ai dit c'est oui à tout parce que j'avais peur que si j'ai dit c'est non, j'ai pas compris ou tal, on me vire. Donc, comme je voulais pas être secrétaire, tu sais, quand tu veux pas être secrétaire, voilà. Mais les cinémas, je l'ai connu bien après d'avoir commencé à les faire.
Et avant, vous le disiez tout à l'heure, il y avait la danse. Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous dansiez ?
La liberté. La liberté. Bailar, c'est la liberté. Et
la liberté, mais une forme de souffrance aussi.
Que ça. D'ailleurs, ça fait mal, t'es dans les bons chemins. Ça fait pas mal, ça veut dire que t'es en train de te foutre de notre gueule et que tu ne cartes pas.
Carrément.
Ah oui, c'est un truc de masochiste.
C'est intéressant.
C'est un truc de masochiste, mais incroyable.
Ça veut dire que votre formation de danseuse, elle a servi à la comédienne que vous êtes devenue?
Ah bah oui, de toute façon, attends, les cinémas à côté de la danse, c'est une promenade, mon chéri. T'as pas mal, t'es payé, alors que dans la danse, t'es même pas payé. T'es payé, je veux dire, puis c'est pas toi, c'est l'autre. Donc tu peux dire et faire des choses que tu n'oserais jamais de ta vie, même pas avouer une pensée, ouais. Mais comme c'est pas toi que c'est l'autre, eh ben j'ai les droits à tout vivre.
Mais c'est toujours votre corps. Quel outil est-ce que c'est le corps pour la comédienne que vous êtes?
Et les corps, il faut l'habituer à qu'ils t'obéissent, quoi.
Ah bon?
Voilà. Ah ouais. Bah oui, bah sinon il a tendance à être flemmard, pas bouger. Non, les corps. Tu sais, dans la danse, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu fais 4 pirouettes que demain tu vas les faire. Hein. Demain tu peux tomber. À la 3e, même à la 2e, même avant. Donc, il n'y a rien acquis.
Quand est-ce que vous avez compris que vous ne feriez pas une carrière de danseuse?
Cambio de sexe, je vais être une femme. Le premier film des 14 films avec Vicente Aranda. Parce que la première année, j'ai fait du cinéma, mais pour avoir des sous, pour pouvoir continuer avec la danse. Et j'étais comme la tu sais, j'ai fait comme la, à chaque film, comme la, les contes de la laitière. Avec ce film, oh, je vais pouvoir, bon, déjà, je vais pas être secrétaire en septembre avec les deuxièmes films. Ah, oh, je vais, comme en Espagne, il y avait rien à faire avec la danse, je vais faire un stage chez Rosella Hightower à Cannes. Après, avec les troisièmes films qui étaient Richard Lester dans l'année, hein. Et je dis, oh, mais c'est pas avec Rosella Hattori, ah, c'est avec Balanchine à New York. Et après les quatrièmes et les cinquièmes est venu Vicente Aranda et j'ai pris les pointes, je les ai, et après ces films, et j'ai décidé de plus jamais faire de la danse, y être actrice.
Vous y pensez quelquefois à ce que vous auriez fait s'il n'y avait pas eu le cinéma? Où vous en seriez aujourd'hui?
Bah, secrétariat.
Ah, le secrétariat?
Ah, bah oui! C'est ça, c'était ça ma destinée.
Comme votre mère avant vous?
Ma mère était infirmière, pas secrétaire.
Quelle mère est-ce que vous avez eue?
Je l'ai très peu vue. Très très peu vue.
Est-ce que vous pensez que cette mère avait des secrets? Pour vous, après tout, il n'est question que de secrets dans drôle de
ouais,
genre.
Bah ouais.
Quel regard est-ce qu'elle portait sur vos ambitions artistiques? Elle vous soutenait?
Bah, tu sais, à l'époque, être actrice, c'était synonyme de putain. Hein. Donc... Quand ils m'ont appelé pour les premiers films pour me demander comment je voulais m'appeler, ma mère a dit « change de nom au cas où ». Au cas où, et comme ça, la famille n'est pas... Et j'ai demandé « on est quoi ?» et on m'a dit « c'est le 24 avril ». Et j'ai dit « Avril, Victoria Avril ». Voilà, c'est comme ça qu'il est sorti le nom d'Avril.
Vous savez, la relation à la mère, elle était au centre d'un de vos films les plus connus au monde. Je pense évidemment à « Talon aiguille ouais. » de Pedro Almodovar, ouais. sorti il y a 31 ans. Et quand je revoyais encore récemment ce film dans lequel Marisa Paredes jouait votre mère,
ouais.
j'y pensais, ce personnage, ce film, ce tournage, quels souvenirs est-ce qu'ils vous ont laissés?
Oh, c'était intense, hein. De toute façon, n'importe quel film avec Pedro, à l'époque, hein, je ne sais plus maintenant, hein, mais à l'époque, quand on avait la trentaine et on avait une énergie, une envie de liberté, les points sur les i et sur les j, hein,
ça veut dire quoi, intense?
Intense, ça veut dire 12 heures de tournage et après on faisait la fête pendant la nuit. Mais comme je buvais pas et je me droguais pas, j'arrivais les matins complètement aussi gênée. De la nuit, tu sais, la nuit à danser, la movida, tu sais. Mais en plus, on dansait partout. C'est même pas la peine d'aller à des discothèques. C'était partout, n'importe quel endroit, dans la rue, sur une benne. C'était... Pff.
Victoria Abril, qu'est-ce que vous mettez de vous dans un personnage?
Mon âme. Après, les physiques, j'essaye de les changer, de les donner à chaque personnage.
C'est-à-dire cheveux. Que vous avez le cheveu imprévisible.
Oui. Je donne, physiquement, j'essaye de créer un look qui ne les correspond qu'à elle. Par exemple, pour Drôle de genre, elle est rose. Elle est rose et noire.
Par parler de personnages, mais aussi de voix, juste après celle de Luz Casal, Piensa en mí, dans le film de Pedro Almodovar en 1991, Talon aiguille, vous êtes sur France Inter avec Victoria Abril. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
Si tienes un hondo penar, piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina. Boca que siento tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí. llores también, piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
Ah là, c'est intéressant parce que physiquement, on est quelque part entre Vicky, Christina et Barcelona. Elle a le regard Carmen, le sourire qui lui mange le visage, le cheveu, je le disais, imprévisible, le charme. Et cette façon, vous savez, qu'elle a de vous parler, de vous entourer, de vous inclure et même de vous charmer. Elle est venue en vélo et elle me l'a dit elle-même, elle a quatre épaisseurs, ouais. Quatre couches. Ouais. Elle a du high-tech, elle a une polaire, elle a une doudoune, elle a à peu près tout, hein, tout ce qu'il faut, ouais, pour une bonne émission. La comédienne Victoria Avril, invitée de Boomerang pour parler de théâtre, mais aussi d'Espagne et de France.
Et Moonboot.
Et les Moonboots, effectivement. La France, ce pays dans lequel vous vivez, vous travaillez depuis plus de 40 ans, avant de venir vous y installer, ça représentait quoi, la France, pour vous ?
L'amour. Ah. Moi, je suis venue vivre en France, pas parce que c'était un pays formidable et parce que c'était hyper romantique, c'est parce que je suis tombée amoureuse d'un Français au Portugal.
C'est pour ça que vous êtes passée de l'autre côté des Pyrénées ?
Oui.
Pour l'amour ?
Oui. Et en plus, j'étais mariée, donc j'ai quitté mon mari, j'ai fait une valise, et j'ai quitté mon mari le 2 janvier 82, et j'ai pris les talgots pour que ça dure. Et je suis arrivée à 7h du matin, la gare d'Austerlitz, en espérant que mon fiancé, que j'avais connu 2 mois avant, au Portugal, qui était aussi marié...
Et il était là ou pas ?
Il était là. Il était là, et voilà. Et après, tu sais, c'était 82, j'allais chercher un permis de séjour pour pouvoir rester là tous les 3 mois. Et après, ça s'est passé à tous les 6 mois. Après, ça s'est passé tous les ans. Après, ça s'est passé tous les 5 ans. Et après, il est arrivé l'Europe. Et j'avais plus besoin des permis de vivre. Mais c'était pour l'amour.
Là, vous me lancez sur l'amour. Quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite par amour, Victoria?
Celle-là, par exemple, quitter ta vie, ta famille, ton pays, ta carrière.
Prendre le train pour que ça dure plus longtemps, vous venez de le dire.
Parce que j'ai pris une décision, dans un avion, etc. En plus, je voulais pas que ça se sache.
Et puis, il faut que ça dure aussi, quand même.
Et puis, il faut que ça dure. Donc, tu sais, quand tout ce que tu peux avoir pris, c'est dans une valise, et tu ne sais même pas si... Mais moi, pour moi, c'était clair. Moi, je l'aimais. Après, j'ai laissé un avocat en Espagne pour qu'il me concède le divorce. Ça a pris 3 ans, hein. Mais 3 ans, hein.
Mais vous faites jamais de concessions? Jamais?
En amour? Des concessions? Bien sûr qu'il faut faire des concessions. attends. Mais tout le temps? Sinon, ça dure pas, hein. Sinon, ça, en amour, on n'aime pas les vertus de quelqu'un, on aime ses défauts.
Ce qui est passionnant, c'est que finalement, vous avez assez rapidement réussi à percer en France, notamment avec La Lune dans le caniveau de Jean-Jacques Benex, qui est mort il y a 3 semaines.
Ouais.
Un film qui n'avait pas été très bien accueilli par la critique. Et ce film, vous l'aviez défendu bec et ongle, il paraît.
Bah ouais.
Vous étiez battu pour
ce
film.
Ouais. En plus, il était mal parti. Depardieu n'avait pas aimé beaucoup, donc... Oui, on est à Cannes et le lendemain, la première de tal. Je suis la vedette d'un film de merde. Tu peux imaginer la journée de promo que j'ai eue quand les propres acteurs principaux n'appuient pas. C'est la première fois que j'ai baffé un journaliste, mais en espagnol.
Vous avez baffé un journaliste?
Je l'ai baffé parce que j'ai fait.
Bah, Victoria, on va se calmer tout de suite parce que moi, je ne suis pas venue là pour souffrir.
Non, mais attends. Tu sais ce que c'est d'entendre dire des 9h du matin jusqu'à 9h du soir que le film c'est une merde alors que il l'avait pas vu. Alors comment un journaliste sans avoir vu le film peut dire une chose pareille?
Ouais, c'est une autre époque là. Qu'est-ce que c'est un bon film pour vous?
Un bon film pour moi, c'est un film où tu rentres dedans pendant 2 heures. Tu es déconnecté de la réalité, del mundo, de l'horreur en lequel vivimos. Et pendant 2 heures, tu rêves, tu te soignes, en fait.
C'est intéressant, parce que, à vous entendre, ça n'a rien à voir avec le genre dans lequel il s'inscrit, ce film. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant, parce qu'il se trouve qu'en Espagne, on vous considère comme une actrice de drame, et en France, comme une actrice de comédie.
Si.
Est-ce que ça veut dire que vous êtes moins drôle quand vous parlez espagnol, Victoria?
Non. C'est parce qu'en Espagne, j'ai surtout fait, depuis le début, tu vois, des films avec des personnages. De toute façon, tu sais, quand tu commences à 14 ans, avant 30 ans, on t'arrive pas des personnages avec humour, hein, déjà. Hein, sois belle et tais-toi. Sois belle et souffre. Hein, pour être belle, il faut souffrir, etc., etc. Donc non, mais donnez pas des rôles. Par contre, les sujets dramatiques racontés avec humour, ça oui.
Mais est-ce que vous jouez de la même façon quand vous jouez en espagnol ou quand vous jouez en français?
Claro que si.
Le français, quelle langue est-ce que c'est pour vous, Victoria Abril?
Il faut quand même savoir que j'ai passé 40 ans en France et que 20 en Espagne.
Mais comment vous l'avez apprise, cette langue, le français?
Et bah, par les chansons d'amour françaises. Et j'ai les entendais et j'ai les lissais et comme ça, j'ai pu comprendre que E, A, U, ça sonne O. Tu vois ce que je veux dire?
Et quand est-ce que vous avez commencé à chanter? Je veux tout savoir, moi.
Oh, et bon, on m'a fait chanter depuis 17 ans, mais pas des trucs que j'aimais. Vraiment chanter des choses que j'aimais, ça a commencé à 40 ans.
C'était les mots des poètes.
Ouais, parce que, à 40 ans, je sais pas pourquoi, t'as 40 ans, ça y est, t'es plus une femme, t'as plus une actrice, les metteurs en scène savent plus quoi faire avec toi, t'as plus des histoires d'amour, t'as plus de sexualité. Donc, bref, ta vie cinématographique devient très pauvre. Tu as les aigris, mon mari me quitte pour une plus jeune, les méchantes aussi, dans la quarantaine, mais pas plus grand chose. Donc c'est là où je me suis appelée moi-même, je me suis dit, Victorita, qu'est-ce que tu veux faire? En plus de t'emmerder au cinéma avec des rôles inintéressants.
Il faut créer,
Il faut créer. Et c'est là où j'ai créé Pucheros do Brasil, qui a tellement bien marché qu'on a fait tout de suite Oh là là, et en fait j'ai passé ma quarantaine à chanter.
Sur ce disque, Oh là là, ouais. En 2007, ouais. Il y avait les mots d'un poète. Un poète que vous avez choisi de nous faire entendre ce matin.
Ouais.
Un poète mis en musique par Léo Ferré. Je veux parler bien sûr d'Aragon.
Ouais.
Et vous allez nous lire Elsa.
Ouais.
On vous écoute.
Ok. Elsa. Eau forte et douce comme un vin, pareil au soleil des fenêtres, tu me rends la caresse d'être, tu me rends la soif et la faim. De vivre encore et de connaître notre histoire jusqu'à la fin. Ces miracles que d'être ensemble, que la lumière sur ta joue, qu'autour de toi les vents se jouent, toujours si je te vois, je tremble. Comme à son premier rendez-vous, un jeune homme qui me ressemble. Pour la première fois ta bouche, pour la première fois ta voix, d'une aile à la cime de bois, l'arbre frémit jusqu'à la souche. C'est toujours la première fois quand ta robe en passant me touche. Ma vie en vérité commence les jours où je t'ai rencontré, toi dont les bras ont su barrer sa route atroce à ma démence et qui m'a montré la contrée qu'est la bonté seule en semence. Tu vends au cœur du désarroi pour chasser les mauvaises fièvres et j'ai flambé comme un genièvre à la Noël entre tes doigts. Je suis né vraiment de ta lèvre. Ma vie est à partir de toi.
Les mots, de Louis Aragon par Victoria Abril. Merci Victoria d'être venue faire un tour dans cette émission. Merci pour le rire, pour l'émotion, pour les mots. Je rappelle que Drôle de genre de Jade Rose Parker, mise en scène par Jérémy Lipman avec Lionel Astier, Axel Wedge. Jade Rose Parker est actuellement et jusqu'au 30 avril au Théâtre de la Renaissance. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers et son Instant M, juste après ça. Masque d'or, il est 9h40 sur France Inter. Sonia De Villers, l'Instant M, c'est à vous Sonia.